Oh, combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants. Donc, Seigneur, merci. Merci. Et je veux vraiment bénir les, au début de cette année, Seigneur, je veux bénir les finances de notre Église, Seigneur. Seigneur, tu es Ebenezer. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été fidèle et tu as conduit source de vie, Seigneur. Et je te demande que 2015 soit une année d'abondance dans tous les sens, Seigneur. Et donc, bénis chacun personnellement aussi, pour ceux qui cherchent du travail, Seigneur, pour ceux qui cherchent, Seigneur, à s'élargir. Seigneur, je te demande de les emmener à Rehoboth, Seigneur. Seigneur, que tu ouvres un Rehoboth pour nous en 2015. Le Seigneur nous a mis au large et nous allons prospérer dans le pays, Seigneur. Donne-nous cette nouvelle année de prospérité et de grâce en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je suis vraiment content d'être de nouveau dans l'Église, parce que ça nous manque. Hein. C'était 2 semaines, 2 dimanches. Mais vraiment, ça nous a vraiment manqué. Et ce matin, quand j'étais dans mon lit, j'étais là, je me réjouissais de venir à l'Église. Et je priais pour les gens, je me rappelle des têtes, des noms et tout ça. Je priais pour vous ce matin et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait plaisir d'avoir d'un côté d'être en relation. Et je sais que quelquefois on peut aller beaucoup plus loin, mais déjà je suis content et vraiment au début de cette nouvelle année, je dis bonne année. Et mais merci aussi pour votre patience à notre égard. Hein, on se sent vraiment aimé et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons avoir pour 2015. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Premier dimanche de l'année. Hein, il faut quand même donner un message d'encouragement. Hein, et donc, le titre de mon message ce matin, vous avez bien fait de venir ce matin. Hein, vous avez bien fait parce que c'est comment réussir 2015. Hein, quand même. Comment réussir 2015. Donc, voilà, je vais vous donner des clés. Et bien sûr, je vais utiliser la Bible. Hein, ce n'est pas pensée positive, ce n'est pas les pensées de New Age, mais c'est les pensées du roi David. Et lui, il a écrit beaucoup de psaumes. Hein, et donc, je vais commencer avec le premier psaume, parce que c'est un psaume qui pose un fondement. C'est le psaume qui pose le fondement pour tous les autres psaumes, mais c'est un psaume qui peut poser le fondement pour 2015. Il y a vraiment une richesse dans ce psaume qui est incroyable. Et donc, on va le lire, hein, le psaume 1. Et donc, le premier mot, c'est quoi dans vos Bibles?
Heureux.
C'est pas mal, hein? Heureux! Heureux, heureux, heureux. Si nous voulons être heureux. On peut dire béni aussi, béni. Peut-être d'autres personnes ont le mot béni. Mais quand on dit heureux année, heureuse année, voilà, que je veux être heureux, on a tous ce désir d'être heureux dans nos vies. C'est le propre de l'homme. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit « je ne veux pas être heureux » Hein, je veux pas être heureux. Bon, peut-être vous en connaissez, hein, mais je pense que chaque homme et chaque femme désire le bonheur. Et donc, le psaume, ça commence heureux l'homme. Qui? Et après, il y a un tas de conseils. Mais ce mot heureux, c'est intéressant parce que c'est aussi le mot que Léa a donné à un de ses fils, Asher, qui fait partie de la tribu d'Israël. Et Asher, ça veut dire heureux, le bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Donc tout est là. Tout est là. Donc aujourd'hui, pour simplifier, je vais vous donner peut-être quatre choses, quatre résolutions. Il y a trois choses à ne pas faire cette année, d'accord? Trois choses à ne pas faire, d'accord? Il faut prendre des résolutions, je ne vais pas faire ça. Et une chose à faire. Donc il y a trois choses à ne pas faire cette année et une chose à faire. Donc, on parle beaucoup de résolutions au début d'une année. Alors là, je suis en train de lancer trois choses à ne pas faire, une chose à faire, oh mes résolutions. Mais je vais vous dire un secret. C'est, il n'y a pas de vraie résolution sans une vraie relation. D'accord? Les résolutions sans relation sont vouées à l'échec. Parce qu'il faut avoir une relation avec Dieu pour bien vivre tes résolutions. Et il faut avoir une relation d'amour avec tes proches pour bien vivre tes résolutions. Si tu prends une résolution dans le vide égoïste, moi je ne vais pas faire ça. C'est voué à l'échec si c'est égoïste et seul et isolé. Une résolution isolée ne va pas aboutir. Parce que c'est bon, il y a plein de bonnes volontés, je vais essayer. Mais il faut que la résolution soit motivée par une relation d'amour, d'accord? Une relation d'amour. Si on est chrétien, ce qu'on est, on est motivé par le désir de plaire à Dieu. On est motivé par cette relation qu'il m'a sauvé. On vient de chanter tout ça. Il a pardonné mes péchés. Il y a une relation de grâce que j'entretiens avec mon Père. Le sang de Jésus me pardonne, me purifie. Il y a une relation de grâce qui est là. Et ça, c'est un peu l'énergie pour maintenir nos résolutions. Cette relation, c'est une énergie, c'est une foi, c'est une puissance, c'est une force pour nous aider à prendre et à vivre des résolutions. Mais même si on n'est pas chrétien, parce que tout le monde n'est pas toujours chrétien, mais il y a une deuxième motivation, c'est l'amour de nos proches, c'est l'amour pour nos proches aussi, qui dit voilà, je prends cette résolution parce que j'aime ma femme, parce que j'aime ma famille, parce que j'aime les gens autour de moi. Et cette résolution va les aider aussi à vivre. Et donc chaque résolution doit être motivée par une relation. Et l'erreur de beaucoup de résolutions, c'est que ça se fait toute seule, dans un petit coin, moi, je, dans mon îlot, quelque part. Et pour réussir une résolution, il faut, comment je peux dire, il faut l'emmener au cœur d'une relation, au cœur de l'amour. Et après ça, ça nous motive quand c'est difficile, ça nous donne la persévérance. Et donc voilà, nos résolutions dans la relation. Trois choses à ne pas faire. Et donc, ça parle, il y a des verbes ici. Ça parle de marcher, ça parle de s'arrêter, ça parle de s'asseoir. Il y a une progression. C'est on marche, on s'arrête, on s'assit. Et quand on est assis, on ne bouge plus. On marche. On s'arrête et on s'assied. Faut pas. Il y a trois choses ici. Il dit, il faut pas marcher selon le conseil des méchants. Qui vous conseille? en 2015. Madame Soleil? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qu'on voit sur les 20 heures qui nous conseille? Patrick Pujadas, c'est ce qu'il vous conseille cette année. Oh, tu as l'autre là. Claire Chazal, les plus jolies. Mais qui vous conseille? Est-ce que c'est l'Internet, Facebook qui va me conseiller? Est-ce que ce sont nos politiciens qui vont nous conseiller? On peut prendre ce qui est bon, mais il faut rejeter ce qui est nul. Ce qui est vraiment le conseil des méchants. Le conseil des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le conseil des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Est-ce qu'on va être conseillé par tous ces gens et que ça va diriger notre vie? La foule! Vous savez, on est beaucoup conseillé par nos amis. Surtout les jeunes. C'est un conseil des méchants. C'est jamais les bons conseils qui sont entendus. Hein. C'est une sorte de folie de l'humanité. C'est souvent le conseil de la foule. Et il faut être fort pour ne pas marcher selon le conseil de la foule. Parce que la foule a crié « Crucifie Jésus !» Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Et le conseil du serpent dans le jardin envers Ève. Elle a dit, mais j'ai un bon conseil de Dieu, il ne faut pas manger à ce fruit-là. Parce que Dieu a dit, si je goûte là, bah, je vais mourir. Et le conseil du méchant, tu ne mourras pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Et elle a croqué. Et le péché est entré dans l'humanité. Et on voit les conséquences. Combien de morts? Dieu n'a pas créé la mort, hein, il faut l'annoncer. Dieu n'a pas créé la souffrance. C'était le choix de l'homme séduit par le conseil d'un méchant. Et ce conseil, oh, vous ne mourrez pas. Oh, tu vois, Dieu, il est. Tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Mais il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Les amis, les médias. Moi, j'aime bien regarder les films, la télé et tout ça, mais il faut faire la différence. Il ne faut pas marcher. Il ne faut pas avoir une vie qui est dirigée par toutes ces suggestions. Et je pense que le pire, quelque chose qui est très pratique pour nous, un de mes pires conseillers, c'est moi-même. C'est les mensonges que je crois. Ça, c'est le vrai conseil d'un méchant. C'est les mensonges que je crois sur ma vie. Ne marche pas selon ces mensonges. T'es nul, t'es pas comme les autres. Voilà, personne t'aime. Voilà, tac, 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 tac. Et tout le reste, mais ce sont des mensonges. Mais on est très sensible. C'est comme une sorte d'identité en nous. On vit dans une identité de mensonge. Et on marche selon le conseil de ce mensonge qui est méchant, qui est nul sur notre vie. Et il dit, il ne faut pas marcher sans le mauvais conseil, le conseil de la crainte, de la peur, de la timidité, toutes ces choses-là. Bon, ce n'est pas facile, parce qu'on a tellement l'habitude, il y a les ornières qui ont été établies quelquefois par ce qu'on a vécu dans notre vie, surtout dans notre enfance et tout ça. Mais tout ce conseil... Il faut écouter des parents, bien sûr, il faut respecter. Mais quelquefois, ce qu'on a entendu, honnêtement, hein, moi, certains conseils de cher père, chère mère, voilà, je te conseille, et ça nous marque. Et je dis, voilà, je ne vais pas marcher, je vais me libérer de cette malédiction ou de ce souhait mauvais qui n'a pas pris en compte mes aspirations, qui n'a pas pris en compte mon identité. Et donc, il y a beaucoup de conseils des méchants autour de nous, qui s'incarnent dans des mensonges, qui s'incarnent dans quelquefois des voies de facilité. Quelquefois, le conseil, la vérité, il y a souvent une certaine discipline, un certain prix à payer, un certain service dans le conseil des justes. Le conseil des méchants est souvent... Voilà un raccourci pour faire comme les autres. Et donc voilà, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas marcher. Ça, c'est la première chose. Mais quelquefois, si on écoute trop, si on marche dans les conseils, il y a une progression. On s'arrête. On écoute bien le mensonge. D'accord. Oui. Oui, c'est pas grave le péché. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est que la culture. C'est Freud a dit. Ça, c'est un bon conseil du méchant. La psychologie, quelquefois, de Sigmund Freud, que Dieu, c'est juste le refoulement du Père en toi, le péché n'existe pas, toutes ces choses-là. Mais si on écoute trop, on s'arrête sur le chemin des pécheurs. Et on fait des péchés. Et donc, péché, un mot un peu archaïque pour notre société libérée. On parle de péché. Les gens, ils n'aiment pas qu'on parle de péché. Mais, c'est le péché nous abîme. Quand je parle de péché, ce n'est pas pour accuser ou pour mettre la loi sur les gens. Mais le péché, c'est manquer le but. Amartia en grec. Passer à côté de la perfection, passer à côté de la joie. C'est le péché. Tu peux l'analyser de toutes sortes, l'égoïsme, passer à côté de sa créativité, de sa poésie, abîmer son corps et tout le reste. Ça n'apporte jamais le bonheur. Et il y a une sorte de... C'est comme Blanche-Neige qui a pris la pomme de la sorcière, qui est une pomme empoisonnée. C'est tellement, tellement joli, tellement bien présenté quelquefois, mais ça nous tue. Et en tant que pêcheur expérimenté, je peux vous dire que ça m'a rarement procuré le bonheur. Honnêtement. Même en tant que non-chrétien, même avant de connaître Jésus, quand je n'avais même pas une conscience qui était préparée. Bon, maintenant, quand je pêche, bon, tout de suite, c'est un peu gêné. Je suis plus gêné. Mais avant, je pêchais sans être gêné. Mais quand même... À long terme, ça volait ma vitalité, ça volait ma vie, et ça volait mon bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le péché, qui ne s'arrête pas. Et je dirais que quelquefois, j'aime bien le mot qui s'arrêtait. Parce que dans la vie, il y a toujours les tentations, il y a toujours les opportunités. Pour le péché, il y a toujours, on peut s'arrêter sur le chemin des pécheurs. C'est comme, quelquefois dans notre rue, il y a les gens, ils se fâchent parce que les gens, ils promènent leurs chiens et leurs chiens, ils font leurs besoins devant les maisons. Et après, ça m'arrive quelquefois de sortir de ma voiture. Oh, j'ai marché dans une crotte. Ah, quelle horreur, tu vois. Et c'est dégueulasse. Mais je passe pas des heures après à m'arrêter. C'est bon, allez, c'est bien, regarde. Tu sais, quelquefois dans la vie, tu vas marcher dans la crotte. Tu vas pêcher. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut nettoyer. Je ne vais pas traîner ça dans la maison. Je ne vais pas traîner ça dans la voiture. Ça va puer et tout ça. Ça vous est arrivé, non? Quelquefois, tu marches dans une crotte, tu vas dans la maison. Tu es là, et après c'est... Et ça c'est un bon signe. Parce que si vous êtes dans le péché, c'est bien que vous remarquez. Vous imaginez une maison où tout le monde s'arrête, ils aiment bien avoir les crottes dans leur maison. Et d'un côté ça pue tellement que tu remarques même plus. Mais c'est ça le problème. C'est quand les gens s'arrêtent sur le chemin des pécheurs. Et que tout le monde a des crottes sur leurs chaussures. Et on s'habitue. Et c'est le normal. Et donc, moi je dirais, il n'y a pas de problème si de temps en temps, parce que dans ce monde, on est entouré de crottes. Et on marche, oh mince, on nettoie, fini. Ça, c'est pas s'arrêter. D'accord? Ça, c'est pas s'arrêter. S'arrêter, c'est comme on reste dedans. Tu vois, boum, je suis dedans. Et rien ne va changer ça. Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est sûr que vous n'allez pas être heureux dans cet état-là. Et donc, ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Et après, le pire état, c'est quand on s'arrête, on s'assied, on allume la télé, pour les chips, bouge plus, on est établi dans une idéologie d'incrédulité. Et il y a beaucoup de gens autour de nous comme ça. Ils se sont assis dans leur incrédulité, dans leur athéisme, dans leur moquerie, dans leur agressivité contre Dieu. La France, malheureusement, a un long passé d'être assise. Pas toute la France, hein, on a un passé catholique aussi qui est louable. Mais il y a un autre passé où surtout les intellectuels et les bons pensants de nos jours, hein, je les vois, ceux qui veulent enseigner dans nos écoles, souvent la philo et tout le reste, qui sont assis, et tu vois, je dirais la génération Canal+, hein, je sais pas si tu vois les guignols, tu vois, bon, je suis pas contre rire, mais quand même, ils se moquent des juifs, ils se moquent de tout le monde, ils se moquent, tout ce qui est Dieu, paf, tout ce qui est Dieu, paf. Et là, tu vois, ils sont bien installés sur le banc des moqueurs, la moquerie. On est là, on se moque. Et après, c'est terrible de devenir un moqueur comme ça, parce que tu deviens plus acteur, tu fous rien et tu critiques les autres. Et ça, si tu veux être malheureux, fais ça. Parce qu'au fond, quand tu vis comme ça, tu es malheureux au fond de toi-même. Et plus tu te moques des autres, c'est comme si tu déchires quelque chose en toi-même, de ton humanité. Et donc surtout pas arriver à cet endroit de passivité et de critique. Voilà, tout le monde est mauvais sauf moi. Moi je suis intelligent, je dois me moquer. Et c'est terrible. Alors là c'est les trois choses à ne pas faire, d'accord. Et donc là, on peut le faire d'une petite manière ou d'une grande manière, mais que ça soit petit ou grand, il ne faut pas le faire pour être heureux. Je dis ces choses, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est même avant Jésus-Christ qu'on a écrit tout ça. C'est inspiré, c'est des enseignements d'un roi David. Heureux l'homme, allez, n'écoute pas des mensonges cette année. Refuse ces conseils des méchants. Casse ces rythmes d'accusation, toutes ces vieilles paroles, ces vieux conseils. S'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ça va si tu as marché dedans, mais nettoie. Sois vite nettoyé et après, voilà, recommence ta route. Mais t'arrête pas là. Que ça ne devienne pas une mauvaise habitude. Que ça ne devienne pas un lien qui doit être brisé. Mais allez, marche dans la sainteté. Marchez par l'esprit, il dit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Et ne, il ne faut pas être assis sur le banc des moqueurs. Et je ne sais pas, pour ceux qui sont en route et qui sont entourés des moqueurs, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Hein. Quand on doit travailler et tout le monde travaille là et ils sont tous assis sur leur banc de moqueurs et là tu es là engagé chrétien. Pas toujours évident. Donc, Seigneur, donne-moi la force. Et donc, si c'est votre cas, on ne veut pas faire ces trois choses. Mais il y a une chose à faire, d'accord? Une bonne résolution exige une bonne relation. Et donc, trois choses à ne pas faire, mais maintenant, une grande chose à faire. Une chose, une seule chose à faire, positivement, pour 2015. Et donc, 2015, il y aura 365 jours et nuits. D'accord? Et donc, 365 fois. D'accord? Et donc, ici, ça parle de jours et nuits. Et donc, la chose à faire, c'est verset 2. C'est l'homme qui trouve son plaisir. C'est important ça. Je ne dis pas qu'il est obligé de lire la Bible. Qui est obligé de venir au culte. Qui est obligé, mais qui trouve son plaisir. Waouh! Parce que les gens, ils trouvent son plaisir dans les boîtes de nuit, dansant, allez. Est-ce que c'est son plaisir? Mais est-ce qu'on est au stade où on peut trouver un vrai plaisir dans la présence de Dieu, tu vois? Parce que sans ça, il y a quelque chose qui manque dans notre vie. Si c'est toujours une obligation, une discipline, Oh, ça dure pour les enfants un peu, allez, on fait ça de temps en temps, mais pour réussir sa vie chrétienne, à un moment donné, ça doit être un plaisir d'aimer Dieu, d'être près de lui. Un plaisir. Que la parole soit plaisir. Que la prière soit plaisir. Que la louange soit plaisir. Que la communion fraternelle soit plaisir. Qu'il y a une force quelque part autour de nous. Ah, je suis bien dedans là. Je me sens aimé. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être aimé. Dieu est l'inventeur du plaisir. Je veux le souligner 5 fois. Parce que souvent les gens pensent, oh Dieu, il est tout sauf plaisir. Et il faut aller dans l'autre camp pour trouver les plaisirs. Mais le plaisir de la pureté, le plaisir de la sainteté, le plaisir de sentir l'approbation de l'amour de Dieu dans ton cœur, de le sentir comme une parole d'amour d'un bien-aimé entre eux. Dieu n'est pas devenu, il n'est pas mort pour qu'on crée un bâtiment, il est mort pour une relation. Et cette relation procure un plaisir pour lui. Oui, incroyable. Moi, je te fais plaisir. Oui, tu m'as fait plaisir. Un pauvre type comme moi. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai donné tout mon amour. C'est pratique. Et Dieu, il prend plaisir en nous. Et il partage par le Saint-Esprit son plaisir avec nous. Donc 2015, pour réussir 2015, il faut que cette relation avec Dieu soit imbibée de plaisir et pas juste de discipline ni juste d'obligation, mais vraiment de plaisir. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours enseigné, même dans le passé catholique de la France. Souvent la religion, il faut assister, c'était toujours, il faut se priver du plaisir pour faire son devoir. Et moi je dirais, quel plaisir de connaître Dieu. Quel plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc, pour réussir, une seule chose à faire, hein, je prends du temps, hein, mais qui trouve son plaisir, après il dit dans la loi de l'Éternel. À l'époque, ils avaient le Torah. David, en l'écrivant, il n'avait pas tous les psaumes. Hein. C'est le premier. J'ai dit, mais t'imagines, il est au premier. C'est l'auteur, Saint-Esprit en lui. Il écrit le premier psaume, peut-être il chante. C'est magnifique. Mais oui, ils ont le Torah. Ils ont Genèse, ils ont Moïse et tout ça. Et déjà, avec que ça, ils disent, mais trouve en lisant l'histoire d'Abraham. En lisant la délivrance du peuple d'Israël, Moïse, voilà, comme Samuel nous a dit, toute la Sainte Seine, la traversée, on a quitté le monde d'Égypte là. Et déjà avec le Torah, ils avaient un plaisir fou. Mais combien plus nous avons cette parole, cette loi incarnée, écrite sur nos cœurs par le Saint-Esprit, une relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Waouh! Quel plaisir! On n'a pas juste à avoir plaisir dans le Torah, on a tout, on a les évangiles, on a tout! On a tout! Et on a le Saint-Esprit donné sans mesure. C'est lui, il pouvait entrer dans le lieu saint une fois par année. Et nous, on a tous les jours cette grâce. Le chemin est libre. Pour prendre un temps, pour être dans la présence de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la personne de Jésus, et qui médite sa loi, qui médite sa personne, qui lui parle jour et nuit. Voilà, 365 jours, jour et nuit. On peut juste, avant d'aller au lit, ferme les yeux, on dit Jésus, Jésus, je prends plaisir en toi. quand tu te lèves le matin. Jésus. Quelquefois, je dis, mais Seigneur, tu ne sais pas, j'ai eu une journée, j'ai eu trop de télé, j'ai eu trop de trucs, tu vois, trop de chocolat, trop de pastis. Oh, tu sais, les gens, ils m'achètent toujours de l'alcool pour Noël, tu vois. Donc, bon, c'est pour faire plaisir aux autres, hein, je bois. Mais quelquefois, j'ai trop de gueule de bois. Hein, et donc, le matin, je suis là, Seigneur, je sais que je suis un peu éloigné pour prendre mon culte personnel dans la sainteté. Mais Jésus, allez, j'attends. Est-ce que tu m'aimes toujours? Ouais, je sais que tu m'aimes. Comment? Est-ce que j'ai été trop loin? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, peut-être là, ouais, pardon, Seigneur. Ouais. Donc, tu es là, tu es un peu pas arrosé, quoi. Tu es un peu pas arrosé. Mais attends, passe pas la journée, jour et nuit. Attends un peu, même une minute, deux minutes. Et il est toujours là. Il dit, voilà, je suis. Et là, tu ressens comme une douche d'amour. Mais ça peut durer un moment, paf, tout, ça, voilà, tu es là, voilà, j'accroche. Et après, ça part quelquefois trop vite. Je ne suis pas assez bien toujours pour garder. Mais il y a quelquefois des pointes où Dieu, je suis toujours là. Et on a besoin de ça pour marcher dans ce monde. Médite la personne de Jésus, médite la parole. Médite sa présence dans la création quand vous marchez. Médite jour et nuit. Tu es là, Seigneur. Ton amour est là. Et on lance nos triplés hein, pour ces trois semaines. Hein. Et donc, on va méditer ensemble Romains 12. Et la fin de Romains 12 est un verset magnifique qui dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Et là, si vous voulez méditer un verset, c'est juste d'avoir ça comme un bonbon. Regarde. Voilà. Ou on mâche comme un chewing-gum. Et tous les jus de ce verset-là. Passe forcément juste avec la tête. Ne sois pas vaincu. Et quelquefois, de méditer un verset toute la journée. Ou si on ne peut pas faire toute la journée, juste 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais c'est des choses très pratiques. Mais c'est ce qui est conseillé ici pour réussir sa vie. C'est de méditer la parole, méditer la personne de Jésus, jour et nuit. Et si tu fais ça, voilà, c'est la seule chose à faire. Hein. Prends plaisir. Fais-toi plaisir cette année. Fais-toi plaisir en Jésus. Fais-toi plaisir. Médite sa loi, jour et nuit. Cet homme qui médite, il y a des promesses. Et c'est des promesses de perdurer, de durer, de persévérer, de continuer. Parce que la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est pas de courte durée. Et donc là, il dit, voilà, si vous posez ce fondement de plaisir et de parole, voilà, tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et moi, je veux être bien planté cette année. Planté là. Pas assis sur le banc des moqueurs, mais planté avec des racines. Des racines qui puisent dans l'eau vive, dans le Saint-Esprit, dans la personne de Jésus. Ce cours d'eau, c'est aussi le pardon, c'est la grâce. Le pardon, voilà, Seigneur, merci. Merci, mes racines. Est-ce que tes racines sont assez profondes pour toucher la grâce? C'est terrible de ne pas avoir des racines qui reçoivent comme une sève la grâce de Dieu chaque matin. Allez, dans ma vie, mes racines sont assez profondes pour toucher la grâce. Voilà, merci Seigneur, je ne mérite rien, mais tu m'aimes. Tu me pardonnes. La grâce est là. Dans cette souffrance, dans cette difficulté, je ne comprends rien, mais mes racines sont toujours là, sont toujours en contact avec ce cours d'eau. Et ces racines poussent dans la méditation, dans le plaisir. Et après, avec ces racines, il donne son fruit en son temps. C'est est-ce que vous avez du fruit à donner? Est-ce que les gens autour de vous, voilà, il y a une bonne banane là, allez, je mange. Une bonne fruit qui sort, le fruit de l'esprit. Vous savez, il y a tout l'amour, patience, joie, c'est persévérance. Tout ce fruit. Mais il dit, on s'entend. On s'entend. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Vous savez, mais mon frère, sa femme a perdu sa mère à Noël. Donc, c'est un peu triste. C'est un décès à Noël. Donc, je sais que je vais dire, ah, réussir, Colin, mon frère. Je ne peux pas juste prêcher bêtement et dire, voilà, sois heureux, tu vas. Parce qu'ils sont, démolis un peu par ça. Et quelquefois, on est confronté par des situations qui sont lourdes. Mais quand même, je sais qu'il y a un temps pour tout. Je peux donner mon fruit en son temps. Et donc ça, c'est aussi important. Les temps sont différents. Et il y a les temps où ce que je dis ce matin est moins évident, d'accord ? Je suis obligé de vous encourager. Hein. Première année, je ne vais pas dire comment être triste pour 2015, hein, mais je sais que quelquefois dans la réalité d'une année, d'une vie, ce n'est pas automatique, ce n'est pas facile. Et il y a les gens, ils ne vont pas forcément aimer que vous soyez trop joyeux trop tout de suite devant. Parce que leur temps est un temps quelquefois dans la vallée. Mais il faut se discerner le temps. Et même pour nous, il y a les temps où on ne va pas bien. D'accord ? Il y a des hivers. Il faut accepter que c'est ça, mais il faut quand même que les racines restent. Mais ce n'est pas grave si on ne brille pas, qu'on ne pète pas la joie, ça va. Mais en son temps, il y a une saison aussi de bonheur. Il faut être patient, Kiko. Il faut savoir vivre dans la vallée pour après porter encore un fruit plus mûr. Et comme j'ai vu ce matin, Dieu m'a donné cette image d'une rose qui était fanée, mais qui avait un bourgeon quand même à l'intérieur. Et il y a un temps aussi pour les nouveaux bourgeons de s'éclore aussi. Et donc, il donne son fruit en son temps. Et cet homme qui aime le Seigneur, qui prend du plaisir en Dieu, il dit, son feuillage ne se flétrit pas. Donc ça, c'est intéressant pour nous les messieurs, hein, reste jeune, pour les dames aussi. Hein. Si vous méditez la parole de Dieu, c'est mieux qu'auréole. Qu'est-ce qu'on dit à auréole? Tu le mérites bien. L'auréal. Ah, mais c'est pas l'auréal. Ouais. Auréal. Je ne suis pas un expert. Mais qu'est-ce que les femmes disent, auréal? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que je mérite bien. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, parce que je le vaux bien. Tiens. Parce que je le vaux bien. Et moi, je dirais, mais allez, moi, je le mérite pas. Mais Dieu, il me garde. Il garde mon feuillage. Il me garde dans cette jeunesse. Et il dit ça aussi dans le psaume 103. Hein. Va te faire rajeunir comme l'aigle. Et je pense cette présence, ce plaisir, le plaisir et la parole, la présence, ça nous garde jeunes. Et pour une église, parce que ce n'est pas juste individuel, mais même pour une source de vie, que Dieu, que notre feuillage, notre témoignage ne se flétrit pas, qu'on ne soit pas vieillots, voilà, les vieux chrétiens, quoi. Mais que Dieu nous garde. Qui nous garde dans cette patience que même dans notre avec les années qui passent, moi je veux être plus fou pour Dieu. D'un côté, bon, et chaque chose en son temps, mais je veux garder d'un côté, je veux garder la pertinence de l'Évangile dans ma vie. Cette pertinence que Dieu me transforme, que Dieu me pardonne, que je garde ma joie en lui. C'est important que ça se flétrit pas. Mais après, pour 2015. Tout ce qu'il fait réussit, mais ce n'est pas moi qui l'a écrit, c'est dans la Bible. Et s'il disait la moitié de ce qu'il fait réussit, je serais content, mais là il dit tout. Tout ce qu'il fait réussit. Moi j'aimerais bien avoir cette promesse pour 2015. Méditer ce psaume. Et donc, pour l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais verset 4, il dit, si vous arrêtez là, si vous marchez dans le chemin du péché, il n'est pas comme ça. La bénédiction, la réussite n'est pas pour l'homme, pour des méchants. Ce n'est pas comme ça pour les méchants. Eux, ils sont comme la paille, quelque chose de superficiel, le vent dissipe. On dit, mais ce n'est pas juste, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu dois aimer tout le monde. Mais non, Dieu, il n'aime pas le péché. Et il faut se séparer du péché avant que ne soit trop tard. Parce qu'il y a... la fin des méchants n'est pas heureuse. Mais moi, je suis content aussi qu'il y a la justice, que Dieu est un Dieu de justice. Et les gens qui sont assis dans la méchanceté, dans la violence, dans les choses terribles et qui ne se repentent pas. Bien sûr, l'amour est là pour l'homme. Dieu, il cherche. Mais la réalité, c'est qu'il y a le jugement. Et les méchants, ils peuvent réussir bien dans ce monde. On voit ça, que souvent les méchants, on voit Staline, on voit dans l'histoire, les méchants ont souvent bien réussi. Mais moi, je suis content que de tels méchants, voilà, qui résistent pas au jour du jugement. Quand Jésus-Christ va revenir, tout genou va se plier et toute langue doit confesser Jésus-Christ est Seigneur. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Et moi, c'est bien, parce que bon, en ce moment, dans toute communauté, c'est mélangé, c'est un temps de grâce. Mais dans le ciel, moi, je suis content que Dieu ne va pas admettre le péché dans le ciel. Il n'y aura pas un seul pécheur dans le ciel. Alléluia. Sinon, le ciel ne serait pas le ciel. Vous imaginez qu'une petite graine de rébellion tombe dans le ciel, une petite graine d'immoralité. Affreux, affreux. Et donc, ça, c'est une espérance aussi, parce que nous, on a 2015. Mais derrière 2015, il y a le ciel. Il y a l'avenir. Je sais que je vais vers un monde meilleur, vers l'éternité. Et dans cette éternité, les pécheurs, ils ne peuvent pas subsister. Les pécheurs ne peuvent pas vivre dans la communauté des justes. Et là, mon espérance, déjà l'Église, prophétiquement, on est cette communauté des justes. Et qu'on n'a pas trop de péchés qui subsistent au milieu de nous. Qu'on puisse créer, un environnement d'amour et de sainteté qui rend le péché un peu difficile. Mais un jour, dans le ciel, plus de péché. Car l'Éternel connaît la voix des justes. Il connaît vos voix. Et la voix des pécheurs mène à la perdition. Mais nous, on ne va pas à la perdition. On va à la réussite. On va à la réussite en 2015. On va au bonheur. On va à un fruit qui demeure. Un rajeunissement. C'est ça que je veux. Et donc, on prend une bonne résolution. Pas à cause de nos forces, mais à cause de notre relation avec celui qui nous aime. Nous plongeons nos racines dans ce cours d'eau et nous disons, voilà Seigneur, je ne veux pas marcher selon ces mauvais conseils des méchants. Je ne veux pas m'arrêter dans le péché et je ne veux pas surtout m'asseoir sur le banc des moqueurs. Mais je fais une chose, voilà, je veux que ta loi, que ta parole, que ta personne, Jésus, soit un plaisir pour moi. Et je veux passer du temps, chaque jour si possible, avec toi en 2015. Vous êtes d'accord pour ça? On prie, on prend cette résolution ensemble pour nous, pour nos familles, hein, que ce rayonnement de grâce puisse toucher tout le monde ce matin. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, au début de 2015, et Seigneur, je te demande de me garder des mauvaises voies, Seigneur. Seigneur, je décide de ne pas me moquer des choses de Dieu. Je décide de ne pas avoir tous ces anciens conseils. Je me détourne des mensonges. Seigneur, je me détourne de péché, Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté. Et Seigneur, une chose, je veux faire une chose cette année. Restaure mon plaisir. Donne-moi du plaisir dans ta présence, Seigneur. Fortifie-moi. Seigneur, je veux recevoir ton Saint-Esprit maintenant. Remplis-moi du Saint-Esprit. Viens, Jésus. Touche mon cœur. Que je puisse prendre plaisir en toi. Plaisir. Seigneur, que je puisse connaître le plaisir de ta présence en 2015. Et que toute cette année puisse réussir pour moi. Au nom de Jésus et pour ma famille. Amen.